Vous écoutez RTL.
Il est exactement 7h38. Monsieur le Premier ministre, bienvenue dans la matinale d'RTL.
Bonjour.
Vous allez répondre successivement aux questions d'Olivier Mazerolles, puis de François Langlais, qui vous interrogera sur les dossiers économiques et sociaux.
Bonjour Manuel Valls.
Bonjour Olivier Mazerolles.
En votant en sens contraire à l'Assemblée nationale et au Sénat, la droite a sa part de responsabilité dans l'abandon de la réforme constitutionnelle. Et on en reparlera demain matin avec François Fillon. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Votre majorité a combattu le président de la République sur la déchéance de nationalité. La ministre de la Justice a démissionné. Vos députés sont à l'écoute des grévistes et des manifestants contre la loi El Khomri qui vont défiler aujourd'hui. Et vous êtes encore possible de gouverner ?
Oui, bien sûr, et si je suis là, c'est précisément parce que je suis déterminé à mener les réformes, à faire face au terrorisme, à être, il faut toujours être, à l'écoute des Français. Mais je regrette, évidemment, je l'ai dit hier à l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé. La petite politique politicienne a eu raison de la grande. Et surtout, nous n'avons pas été collectivement à la hauteur de l'exigence des Français. Nous faisons face, Olivier Mazerolles, vous le savez, à une menace terroriste sans précédent. Nous avons été frappés en janvier et en novembre 2015. Nous avons été frappés à l'extérieur. Un travail d'enquête est mené par nos services de police, de gendarmerie, de renseignement.
Il faut un travail tout à fait admirable.
Plusieurs personnes ont été interpellées. La Belgique, il y a quelques jours, a été douloureusement frappée également. Et face à cette menace, il faut d'abord armer le pays. C'est ce que nous faisons, en donnant plus de moyens à la police, à la gendarmerie, à nos forces armées, aux services de renseignement, en menant des enquêtes, en mobilisant toutes les forces possibles au niveau européen, mais aussi au niveau mondial, parce que le terrorisme nous mène la guerre. Et le président de la République, parce qu'il est garant de l'unité nationale, avait considéré, 3 jours seulement après les attentats du 13 novembre, 3 jours, il faut se rappeler dans quel moment nous étions, qu'il devait garantir qu'il devait permettre le rassemblement et l'unité. Et tous ces parlementaires qui, au congrès de Versailles, l'avaient applaudi, devraient avoir en tête cette volonté de rassemblement, cette exigence, n'est pas uniquement celle du président de la République ou la mienne, mais qui était celle des Français. Alors nous retrouvons dans une situation, je réponds à votre question, la droite sénatoriale a bloqué la révision alors qu'un accord était possible et qu'elle était favorable à la déchéance. Une partie de la gauche préfère ou préférait l'échec plutôt que de voter une déchéance, pas pour un binational, pas pour un Français, pour un terroriste, pour un terroriste. Et malheureusement, encore une fois, des considérations politiques sont venus percuter cette volonté d'unité.
Mais je veux vous rappeler... Avez-vous une autorité sur la gauche,
Je veux vous rappeler, Olivier Mazerolles, qu'à l'Assemblée nationale, les 3/5 de l'Assemblée, ça veut dire quoi? Parce que je pense à ceux qui nous écoutent. Pour une révision constitutionnelle,
il faut une majorité des
3/5. À l'Assemblée nationale, alors que et la gauche et la droite étaient divisées, nous avons...
Précisément
à vos questions. Nous avons obtenu une majorité. Au Sénat, la droite, la majorité sénatoriale, n'a pas souhaité cet accord.
Il n'empêche qu'il y a une crise politique, vous le voyez bien. Christiane Taubira, tiens, se félicite, dit-elle, de la fermeture de la parenthèse d'un douloureux égarement.
Mais moi, je ne vais pas commenter les tweets, les textes, les Facebook de tel ou tel ancien ministre. Ça n'est pas mon sujet. Mon sujet, ma responsabilité, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que nous soyons solides face au terrorisme. Et le discours du président de la République du 16 novembre dernier au Congrès. Le texte que nous avions adopté en Conseil des ministres le 23 décembre pour à la fois asseoir dans la Constitution l'état d'urgence et pour prévoir la déchéance de nationalité pour des terroristes, le vote à l'Assemblée, plus de 3/5 des députés, permettait, me semble-t-il, ce rassemblement, cette unité.
Alors parlons du concret, l'autorité du président s'effiloche, on le voit dans les sondages, l'électorat qui a voté pour lui, pour le discours du bourgeois ne se reconnaît pas dans la politique qu'il mène, et des députés qui sont favorables à votre ligne politique et à la sienne, mettent en cause son autorité et son attitude. Je vous propose d'écouter ce que disait Malek Bouti ici la semaine dernière.
Le haut sommet de l'État devrait moins se préoccuper de la prochaine élection présidentielle.
Le haut sommet de l'État, il porte un nom, hein, c'est François Hollande.
Oui,
il fait le job.
Je trouve qu'il fait le job est bien fait sur le terrain sécuritaire et militaire, et le bilan est extrêmement médiocre sur le terrain politique.
Et si je puis dire, c'est assez soft, parce que hors micro, on entend dire, pas seulement par Malik Bouti, des choses bien plus épouvantables.
Vous n'allez pas me demander de commenter en plus le hors micro. Qu'avons-nous fait depuis 2012?
C'est le président de la République qui est mis en cause.
Qu'avons-nous fait depuis 2012 et qu'a fait le président de la République, puisqu'il est en effet l'élu du peuple? Nous avons armé, je le répète, la France face à une menace terroriste inédite, y compris avant les attentats de janvier 2015. Nous avons, et c'est le fruit de l'action que je mène depuis 2014, baissé les impôts. En tout, 12 millions de ménages modestes et des classes moyennes en bénéficient. Et il y aura une nouvelle tranche de baisse d'impôts, vous le savez, au mois de septembre prochain. Nous baissons les déficits. Nous avons réformé les régions. Nous avons réussi la COP21, mais aussi à travers la loi sur la transition énergétique, à préparer le pays à cette révolution incroyable qu'est la transition énergétique.
Pourquoi ça ne marche pas ?
Nous avons créé plus de postes
mais
de policiers,
de
juges et de policiers. Parce qu'il manque sans doute une explication, un sens à tout cela. Et moi, je ne baisse pas les bras. Si je suis ici devant vous, c'est parce que je considère que le pays se renforce et que le temps du bilan viendra. Ce ne sont pas, même dans ces situations extrêmement difficiles, où il y a une part, sans doute, de décomposition politique, à droite comme à gauche, où les notions même parfois de droite et de gauche échappent tout simplement aux Français, où les comportements politiques ne sont pas à la hauteur du moment, c'est-à-dire d'un monde qui change, un monde bouleversé, de la menace terroriste que nous venons d'évoquer, de la crise des réfugiés, des dangers qui guettent l'Union européenne, cette construction qui a permis pendant des décennies la paix sur notre continent. Face à cela, il faut garder le cap ferme, ne pas baisser les bras, garder le cap ferme.
Le cap.
Et se rappeler que non seulement nous obtenons des résultats, que la France est un grand pays qui compte dans le monde,
Monsieur le Premier
et
ministre.
Qu'il faut redonner aux Français cette perspective, Monsieur... ce sens. C'est au gouvernement de le faire, et c'est bien sûr au président de la
Monsieur
République
le Premier
d'indiquer
ministre,
ce sens.
Je vais me dire encore que c'est du off, mais enfin, nous sommes tous les journalistes politiques assaillis de commentaires des députés de votre majorité. Alors d'un côté, il y a vos partisans qui pensent que vous êtes ficelés par un président de la République calculateur, que vous n'en pouvez plus de cette situation parce que vous ne pouvez pas agir à votre guise. Et à l'inverse, il y a les frondeurs qui pensent que vous poussez François Hollande à la faute fatale pour prendre sa place à la présidentielle. Ça peut durer encore pendant un an comme ça ?
Mais nous avons des institutions heureusement solides, celles de la Ve République. Le président de la République a été élu pour 5 ans, cette majorité également. Et vous pensez que dans ce moment-là que je viens de décrire, face notamment à la menace terroriste, il y aurait des problèmes de personnes qui devraient s'imposer?
Mais eux, ils sont brinque-ballés par ça, vos députés.
Et ben c'est bien le problème. Il ne faut pas être brinque-ballé dans ces moments-là. Il faut rester solide. Ce sont des élus du peuple français. Moi, je sers la France. Je suis chef du gouvernement de la France. Ce n'est pas un petit pays. Le président de la République, aujourd'hui, ce soir, sera à Washington. Il va rencontrer le président Obama. Ils vont évoquer ensemble la situation en Syrie, en Irak, la lutte contre l'État islamique, la mobilisation contre le terrorisme. Et vous pensez que dans ces moments-là, il faudrait se préoccuper de tel ou tel état d'âme? Mais enfin, que chacun se reprenne, que chacun se rende compte de la situation dans laquelle nous sommes. Moi, j'ai la conviction, Olivier Mazerolle, que nous pouvons faire autrement la politique. Que l'on peut, bien sûr, gouverner d'une autre manière. On peut le faire avec des acteurs de terrain. Après les élections régionales, prenons un exemple. Après la situation, parce qu'on a le sentiment qu'on l'oublie, le temps efface des événements considérables. Avec l'élection de 3 présidents de région, avec le soutien de la gauche contre l'extrême droite, dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, dans l'Est, dans le Sud, chacun s'était dit comment nous pouvons changer la manière de travailler entre la droite et la gauche, entre les régions et l'État, sur la question essentielle de l'emploi.
C'est, comme dirait Jacques Chirac.
Oui, mais parce que vous, Olivier Mazerolle, souvent, vous ne regardez que ce qui ne marche pas. Quand il y a quelque chose qui se construit, ça ne vous intéresse pas. Hier, j'ai signé avec le président de l'Association des régions de France, M. Richert, le président de la grande région Est, et les autres présidents de région, qu'ils soient de droite ou de gauche. Nous avons signé un pacte pour avancer ensemble sur la mobilisation en faveur de la formation des chômeurs, de l'apprentissage, de l'emploi. C'est-à-dire que les régions de droite et de gauche sur des sujets essentiels qui préoccupent les Français et le gouvernement se mettent d'accord au long, au fond, d'une certaine unité nationale. Personne n'en parle, parce que ce dont on a envie de parler, c'est alors, les divisions, c'est les petites phrases, c'est les tweets de ceux qui ne gouvernent plus. Alors, moi, j'assume la part du gouvernement. Et j'ai la chance, pardon de le dire, d'avoir dans mon gouvernement un ministre de l'Intérieur totalement engagé face à la menace terroriste, un garde des Sceaux qui porte une loi pénale qui va renforcer les pouvoirs des magistrats, des policiers et des gendarmes face aux terroristes. Un ministre de l'économie, Emmanuel Macron, totalement mobilisé. Des ministres qui ont en charge les finances et les budgets, comme Michel Sapin et Christian Eckert, qui font baisser les
déficits. Vous êtes
en
déficits. Colère, alors, contre les tweets, contre les rumeurs, contre... Mais ce n'est pas uniquement des rumeurs. Ils parlent, vos députés. Ils ont la trouille. Ils se disent, on va être flingués l'année prochaine aux élections.
Je ne suis pas en colère, parce que, en même temps, j'assume les responsabilités. Et sans doute, il y a et un manque d'explication. Et des erreurs de méthode, je l'ai dit, notamment pour ce qui a concerné la concertation sur la loi, sur le travail que porte avec courage et panache Myriam El Khomri. Donc j'assume ma part de responsabilité, mais je demande à chacun d'être à la hauteur de ses responsabilités, d'avoir de l'audace en allant chercher de nouvelles idées, au lieu de s'enfermer en permanence dans les petites querelles ou dans les grilles de lecture vieilles, dépassées ou purement idéologiques. De savoir tendre la main, comme nous l'avons fait à l'opposition, à la droite, et ça n'est pas renier son identité, contrairement à ce que parfois j'entends dire, c'est se grandir quand on est à gauche. Et quand elle refuse ce qui s'est passé avec le Sénat, eh bien, il faut recommencer, il faut continuer à travailler ensemble, notamment pour la lutte contre le terrorisme. Au fond, ce qui est terrible dans la vie politique française, c'est le sectarisme, aussi bien à droite qu'à gauche, alors qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à travailler ensemble. Eh bien, avec le président de la République, nous n'abandonnerons pas cette volonté qui est de protéger les Français, de les rassembler et de préparer le pays au grand mouvement économique du monde en gardant nos valeurs et en protégeant nos concitoyens.
La loi El Khomri, François Langlais a des questions à vous poser.
Sur les dossiers économiques.
C'est aujourd'hui une journée de mobilisation importante contre cette loi El Khomri et sa réforme du marché du travail. Le texte va être examiné à l'Assemblée bientôt et probablement amendé, enrichi. Y aura-t-il des mesures spécifiques pour les PME leur permettant de faire des licenciements économiques plus facilement que les grandes entreprises?
Il y a un souci qui a été exprimé pas seulement par les organisations patronales, mais aussi par les parlementaires de tous bords, notamment à l'occasion de l'audition de la ministre du Travail il y a deux jours. Comment pouvons-nous, alors que nous avons déjà fait beaucoup, comment pouvons-nous soutenir davantage les PME, les ETI, c'est-à-dire là où travaille l'immense majorité de nos concitoyens, et c'est là, en effet, où on crée de l'emploi. Donc, moi, je fais confiance au Parlement, au travail qui va se nouer dès cette semaine, et surtout la semaine prochaine, au sein de la Commission des affaires sociales, avant que le texte ne vienne début mai dans l'hémicycle, pour trouver les bonnes mesures.
Et ça veut dire qu'il y aurait un seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel les licenciements économiques seraient plus faciles.
L'idée n'est de ne pas rendre plus facile le licenciement économique.
Plus facile, plus simple.
C'est de donner plus de lisibilité, plus de visibilité aux entreprises d'une manière générale. C'est pour ça que nous avons, dans la loi, intégré les motifs de licenciement, que le périmètre pour intégrer ces motifs de licenciement est le périmètre national, le périmètre français, ce qui nous met au standard des autres pays européens. Et c'est autour de cette idée-là qu'on recherche la possibilité de soutenir davantage les petites entreprises. Mais vous le savez, nous avons un problème constitutionnel, nous avons déjà été censurés par le passé, le Conseil constitutionnel n'acceptant pas des différences au sein même des entreprises entre entreprises. Mais je pense que nous pourrons trouver, je l'espère, la bonne solution, parce que moi j'ai comme souci, en effet, nous l'avons fait déjà avec le motif de licenciement, de répondre à l'attente des chefs d'entreprise. Regardez le succès de la prime d'embauche, 2000 euros sur deux ans. Ce sont aujourd'hui plus de, en quelques semaines, en quelques mois, près de 130 000 engagements qui ont été pris, 130 000 embauches sur cette base-là. Donc ça veut bien dire que nous avons des dispositifs qui aujourd'hui marchent et qu'il faut continuer à approfondir.
Une question sur le salaire minimum. La Californie vient d'annoncer une augmentation très importante de son salaire minimum, c'est 50%. Le Royaume-Uni s'apprête à augmenter le sien demain 7,5%, donc c'est substantiel. Et ils le font au nom d'un argument qui est celui des frondeurs socialistes français. Il faut soutenir la demande. Cameron, finalement, est plus proche des frondeurs français que vous. Est-ce qu'il n'est pas temps, aussi en France, de donner ce qu'on appelait naguère un coup de pouce au SMIC, c'est-à-dire une augmentation inhabituelle décidée par le gouvernement, puisque vous en avez le pouvoir.
Mais vous connaissez bien ces sujets-là, et vous savez que nous avons un des salaires minimums les plus élevés. D'ailleurs, parfois, ça nous est reproché par les mêmes qui vont chercher...
Ça ne sera plus vrai après ces augmentations.
Qui vont chercher leur exemple en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Nous avons une situation différente, marquée par un haut chômage, par un chômage de masse depuis 30 ans. Et c'est à ce problème-là que nous devons nous attaquer.
Donc pas d'augmentation
du SMIC. Et c'est l'objectif. Il y a eu déjà des augmentations de
salaire. 0,6% la dernière.
Il y a eu des augmentations de salaire. Et vous le savez même que le CICE, le pacte de responsabilité et de solidarité, qui a permis à nos entreprises, toutes nos entreprises, en moyenne bien sûr, de restaurer leurs marges, a permis des investissements, l'achat de machines
et outils. C'était une aide aux employeurs,
des embauches,
pas aux employés.
Des embauches et aussi... de la hausse des salaires. Nous venons d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires.
Donc
vous
fonctionnaires.
Avez nous avons une augmentation, y compris à travers le niveau d'inflation, quasiment nul, du pouvoir d'achat. Donc d'ailleurs, les Français eux-mêmes ne se rendent pas compte toujours que nous avons toujours été habitués à une inflation importante dans ce pays, en tout cas il y a quelques années. Donc, aujourd'hui, nous devons mener une politique salariale qui soit modérée, intelligente, et qui permettent à nos entreprises de retrouver progressivement, ce que nous avons fait depuis 2012, leur compétitivité.
Carlos Tavares, le patron de Peugeot Citroën, a vu sa rémunération doubler cette année, 5 millions d'euros. C'est vrai qu'il a contribué à rétablir l'entreprise, mais au prix quand même de sacrifices demandés aux salariés, sacrifices substantiels, et puis d'une entrée de l'État au capital, pour éviter la faillite. Cette augmentation de salaire vous semble-t-elle juste ?
Non. Carlos Tavares est un grand patron. Il a permis le rétablissement de PSA, avec le soutien, en effet, de l'État, au prix de l'effort aussi des salariés. Et aujourd'hui, PSA, comme Renault d'ailleurs, va mieux, embauche, et c'est une bonne chose. Et il y a eu un dialogue social particulièrement fructueux, ce qui montre que le dialogue social est lié, bien sûr,
ceinture
aussi
pour les salariés,
progrès économique.
Hein. Ça a été des sacrifices qu'on leur a demandé, et chez Renault et chez Peugeot.
Nos élites dans notre pays, qu'ils soient dirigeants politiques ou grands patrons, peu importe leur statut dans la société, doivent tenir compte de ces colères, de ces inquiétudes, des ruptures que nous connaissons, de la progression de l'abstention ou du Front National. Donc, tout geste, toute attitude, tout sentiment qui s'éloigne d'une forme d'exemplarité, de sentiment de ne pas être connecté avec la réalité que vivent les Français et les salariés, est un mauvais signe.
Les représentants de l'État au Conseil d'administration ont voté contre, mais aucun impact. Alors, si on comprend bien, Peugeot appelle l'État quand il a besoin d'argent, mais le reste du temps, il n'écoute pas. Hein.
Oui, mais l'État, en même temps, bénéficie du retour sur investissement, si vous me permettez cette expression.
Pas de dividende cette année.
Bénéficie et bénéficiera de ce retour sur investissement. Mais l'État est minoritaire, il joue son rôle, et heureusement, il a joué pleinement son rôle. Nous avons toujours besoin d'un État stratège qui peut piloter et la politique économique et la politique industrielle, même dans un monde ouvert. Mais les messages ont été passés. Je regrette, encore une fois, cette augmentation qui ne correspond, me semble-t-il pas, à la réalité que vivent aujourd'hui les salariés de cette grande entreprise qu'est Renault.
La France est un peu en avance sur son programme de réduction du déficit, 6 milliards en 2015. À quoi cet argent va-t-il être utilisé ?
Mais vous avez remarqué qu'on parle de cagnotte. Et au fond, d'une certaine manière, vous n'avez pas prononcé le mot,
non,
mais d'une certaine manière, vous parlez, au fond, de quelque chose qu'on aurait en plus. Non, quand on a 3,5% de déficit, même si c'est beaucoup mieux que ce que nous avons connu par le passé. Il a diminué de moitié en 4 ans, même si c'est mieux que les prévisions qui étaient les nôtres ou celles de la Commission européenne, nous gardons un niveau de déficit.
Ça veut dire qu'on l'affecte à la réduction du déficit.
Et donc ça veut dire qu'il faut continuer à tenir nos objectifs, à diminuer le déficit, et que les objectifs pour 2016 et 2017, notamment pour 2017 à moins de 3%, devront être atteints. Et en même temps, nous devons, nous l'avons toujours dit, soutenir nos services publics, créer des postes dans l'éducation nationale ou pour la sécurité des Français. Donc nous avons, et c'est peut-être aussi ça le modèle social français, cette capacité à soutenir les entreprises, à recréer de l'emploi. Il faut continuer, il ne faut pas changer de cap, parce que j'ai la conviction que nous sommes en train de réussir et les derniers chiffres, notamment en termes de croissance et d'activité économique dans un contexte mondial qui est difficile, le montrent, et en même temps garder un État et des services publics performants, parce que c'est ça aussi qui fonde la cohésion républicaine.
Au revoir, monsieur le Premier ministre, merci. Vous êtes moins agacé par la situation économique que par la situation politique.
Mais vous avez raison, parce que quand on a des résultats sur le plan économique, quand on fait face avec force, ténacité au terrorisme, quand on engage le pays sur la voie de la réforme, du progrès social, de la lutte contre les inégalités, et ces inégalités aujourd'hui reculent, oui, il y a parfois non pas de quoi être agacé, mais il faut venir expliquer, je l'ai fait encore une fois devant vous ce matin, convaincre, et moi, tant que je suis à ce poste-là, à cette responsabilité, fier de l'être, mais jusqu'au bout, jusqu'en 2017, bien évidemment, je continuerai à le faire parce que je crois profondément dans ce que je fais.
Manuel Valls, merci. Une dernière question qui peut justifier une réponse courte. On boucle cet entretien, comme vous l'avez commencé, sur les questions de terrorisme. Il aurait pu être concerné par la déchéance de nationalité. Savez-vous quand la justice française va récupérer Salah Abdeslam ? Est-ce qu'on a une date ?
Non, nous n'avons pas de date précise, mais les relations entre les parquets belges et français sont de très bonne qualité. Et j'espère que nous pourrons très vite récupérer cet individu qui est en effet français, il n'a pas la double nationalité. Et cette question, elle se posera à chacun, Yves Calvi. Aujourd'hui, dans le droit actuel, on peut déchoir de la nationalité quelqu'un qui a été inculpé pour délit de terrorisme, c'est-à-dire autour de 10 ans de prison. Quelqu'un qui a la binationalité, qui
donc
a été naturalisé.
Donc ce sera son cas.
Et donc on ne pourra, non. Et donc on ne pourra pas, puisque la droite sénatoriale ne le permet pas, on ne pourra pas déchoir de la nationalité l'un des responsables des attentats du 13 novembre. Quelle responsabilité. Que peuvent penser les Français un seul instant d'une telle attitude ? Nous ne pourrons pas déchoir de la nationalité un Français mononational qui aurait commis des attentats terribles. Quelle responsabilité.
Merci Monsieur le Premier ministre. L'entretien que vous venez de mener avec François Langlais et Olivier Mazerolle est à retrouver et à réécouter sur le site rtl.fr.